Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Métropolez-vous, votre émission dédiée à l'actualité métropolitaine. La thématique de notre radiodon étant cette année la restauration, l'acte de restaurer en général. J'ai voulu consacrer ce numéro au patrimoine, à sa mise en valeur, qui passe souvent d'ailleurs par des travaux de restauration. Nous avons en effet la chance de vivre dans une métropole au patrimoine très riche, qu'il soit religieux ou civil, bâti ou paysager. Il suffit de se promener dans le centre de Toulouse, dans sa partie ancienne, ou au bord de la Garonne, des canaux du Midi et de Brienne pour s'en convaincre. Déambuler dans le quartier des Carmes, autour de la cathédrale Saint-Étienne ou du jardin du Grand Rond, est toujours l'occasion de faire des découvertes, de s'émerveiller, pour peu que l'on prenne la peine d'ouvrir les yeux et de lever la tête. Maintenir ce patrimoine si précieux, cet héritage que nous devons au travail et au génie des Toulousains des siècles passés, nécessite des investissements et une volonté politique. Nous allons donc consacrer ce numéro à ce que font la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole pour restaurer et mettre en valeur le patrimoine sur leur territoire. Le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudenc, nous fait l'amitié de participer à cette émission. Bonjour monsieur le maire président, merci d'avoir accepté notre invitation à venir vous exprimer sur ce sujet de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine qui vous est très cher et dont vous avez fait d'ailleurs un des axes forts de vos mandats depuis 2014.
Bonjour et merci de cette invitation. Effectivement, je crois que le patrimoine, c'est important parce que c'est une part de nous-mêmes, le patrimoine commun, le patrimoine de la ville. Quelque part, on s'y reconnaît personnellement. On a des souvenirs d'enfance, des souvenirs familiaux. Donc c'est important. C'est important, c'est une affirmation de l'identité. On est dans un monde où parfois on perd les repères et on se demande où est l'identité. Et parfois, certains même considèrent que le mot identité est devenu un gros mot. Moi, je crois que l'identité, c'est quelque chose de fondamental pour l'épanouissement de la personne humaine. Et j'ai l'habitude de dire que le patrimoine, par définition, c'est l'identité heureuse. C'est une affirmation très très claire d'une identité architecturale, d'une époque, d'un style, d'un territoire. Donc c'est identitaire, mais forcément, ce n'est pas une identité qui est dirigée contre quiconque. Ce n'est pas belliqueux pour un sou. Donc c'est une identité heureuse. Et donc, en restaurant le patrimoine toulousain, en faisant cet effort accentué depuis maintenant presque 10 ans que nous sommes élus avec mon équipe, eh bien, on promeut cette notion d'identité heureuse.
Il y a une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, je pense, c'est que le patrimoine toulousain, ce riche patrimoine bâti et naturel, hein, on y reviendra, est aussi un élément fort de la qualité de vie et de l'attractivité de la métropole toulousaine.
Oui, bien sûr, parce que Toulouse se construit en étant tournée vers l'avenir et on y travaille tous les jours. Pour autant, on a des racines, on a des fondamentaux. Et dans ces racines, la culture et le patrimoine sont des éléments qui ne renvoient pas simplement à notre passé, mais qui sont des ingrédients pour l'avenir. Ce sont des éléments de discours pour faire venir des visiteurs, pour faire venir des touristes. Je souhaite, et nous agissons dans ce sens depuis plusieurs années, je souhaite le développement du tourisme de manière raisonnée et raisonnable, bien évidemment. Et la mise en valeur des éléments remarquables du patrimoine de Toulouse concourt également à cette attractivité, qui est une attractivité importante pour les Toulousains parce qu'elle a des retombées sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'emploi. Il y a des secteurs entiers qui peuvent, je dirais, se développer, s'asseoir aussi grâce à ces retombées parce que le patrimoine est un élément qui fait venir des gens à Toulouse.
On va regarder dans le détail l'action que vous menez à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole pour préserver le patrimoine toulousain et métropolitain. Avant cela, si vous le permettez, dans la mesure où nous lançons notre radiodon aujourd'hui pour restaurer nos finances et assurer la pérennité de Radio Présence, je vais vous demander de dire un mot sur notre radio. Je pense que vous y êtes attaché et que vous aimez vous exprimer sur notre antenne. Pourquoi l'appréciez-vous et que diriez-vous à nos auditeurs pour les convaincre de nous soutenir financièrement?
Je connais Radio Présence depuis longtemps. Et c'est vrai que j'y viens régulièrement grâce aux aimables invitations que je reçois. Ce que je pense que l'on peut dire de Radio Présence par rapport au paysage général des radios ici, c'est que Radio Présence a un souci constant de rechercher l'objectivité, de mettre en avant les faits de manière équilibrée, pas d'être dans une démarche politique ou même polémique. Et je crois que ce souci d'objectivité rend crédible Radio Présence et fidélise les auditeurs. Et puis, la deuxième caractéristique de Radio Présence, c'est que c'est une radio chrétienne, et donc elle est porteuse d'un message d'espérance, d'un message de fraternité, d'un message au service de la personne humaine aussi. Et je crois que tout cela, dans le monde tourmenté que nous vivons, c'est éminemment utile pour le corps social. Donc il y a un intérêt que je qualifierais d'intérêt général que porte votre radio, et donc j'espère que l'appel aux dons sera un succès.
Mais merci beaucoup, Monsieur le maire président, pour ces mots qui résument bien, en effet, je crois, ce qu'est l'esprit de Radio Présence. Et je rappelle à nos auditeurs que pour faire leur promesse de don, ils peuvent appeler au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. Vous pouvez également faire un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Nous allons revenir maintenant à notre sujet du jour, l'action de la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine. Si l'on fait un état des lieux, afin que nos auditeurs prennent bien la mesure de ce que représente le patrimoine toulousain, combien d'édifices le constituent aujourd'hui, qu'ils soient classés ou inscrits aux monuments historiques?
Il y en a très précisément 65. 65, il y a de tout. Il y a des églises, puisque depuis la loi de 1905, les églises qui étaient construites alors sont toutes devenues patrimoine municipal. Et quand je dis les églises, je n'aurai garde d'oublier le temple protestant et la synagogue de la rue Palapra. Donc les édifices religieux, il y a l'hôtel de ville bien évidemment, il y a la piscine, la grande piscine, le grand bassin Nakache, il est également classé. Il y a des châteaux, il y a des monuments aux morts, il y a même un cimetière, le cimetière de Terkabad, qui est un cimetière historique. Donc il y a de tout, il y a des monuments religieux qui sont consacrés, il y a des monuments civils, il y a aussi une dizaine d'anciens monuments religieux qui ne sont plus consacrés. Par exemple, la chapelle Saint-Joseph de la Grave, elle a été désacralisée, elle n'a plus d'usage cultuel, pour autant ça reste bien évidemment un monument religieux.
Alors ça, ce sont les 65 édifices qui sont propriétés de la mairie de Toulouse, mais il y en a d'autres évidemment sur le territoire, celui de la ville de Toulouse et celui de Toulouse Métropole, donc il y en a encore des centaines d'autres. Je pense par exemple à un site magnifique que tout le monde connaît pour passer devant sans pouvoir forcément y entrer, c'est le Palais Niel.
Oui, le Palais Niel qui appartient à l'armée.
Qui appartient à l'armée.
Donc qui appartient à l'État, ministère de la Défense, la préfecture qui est l'ancien archevêché de Toulouse, qui est devenu bien national à la Révolution, qui appartient à l'État, bien évidemment. Donc, effectivement, il y a toute une géographie des biens qui sont classés monuments ou inscrits. Classés ou inscrits, puisqu'il y a deux formules de protection dans la loi française. Et puis, après, il y a plein de monuments à caractère privé également.
Oui, il y a des immeubles, notamment, je parlais du quartier des Carmes tout à l'heure, où oui. il y en a plusieurs.
Et puis, nous avons aussi, dans notre patrimoine, un certain nombre d'éléments qui sont remarquables, qui ont un caractère ancien, mais qui n'ont pas de classement ou de protection. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de valeur patrimoniale.
J'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction un aspect important du patrimoine, c'est le patrimoine paysager. Et là, on pense évidemment à toute la traversée de la Garonne à Toulouse, mais aussi sur d'autres communes de la métropole, que vous mettez en valeur à travers un projet, par exemple, qui lui est métropolitain, comme le Grand Parc Garonne.
Oui, le patrimoine naturel, ça compte beaucoup. J'ai envie de dire même que ça compte de plus en plus. Et ce patrimoine-là, les gens y sont tout autant attachés que le patrimoine historique bâti. Ça fait partie du paysage, ça fait partie des caractéristiques qui doivent amener de la beauté, qui doivent amener des sensations agréables pour les gens, que ce soit les Toulousains ou les visiteurs. Alors c'est vrai, ces dernières années, on a fait pas mal d'efforts pour la mise en valeur de la Garonne, les berges de la Garonne. Elles avaient été aménagées déjà dans les années 80. On a poussé les choses un petit peu plus loin et j'ai souhaité en particulier restaurer ce qui ne l'avait jamais été, c'est-à-dire ce grand mur de briques au centre de Toulouse qui constitue la digue historique de la Garonne, qui avait été ordonnée par le roi Louis XV et qui a été construite progressivement sous Louis XVI pour partie et sous Louis XVIII pour ce qui concerne le quai de Tunis. Donc c'est un élément qui a grosso modo 250 ans d'âge, qui n'avait jamais été restauré. Donc nous avons restauré, ça s'est étalé sur plusieurs années ces dernières années, parce que ça représente un budget conséquent. Et ça aussi, c'est par définition la brique toulousaine qui est mise en valeur. Mais bon, au-delà de ça, on a également restauré le patrimoine végétal. Par exemple, on a renforcé les arbres place Saint-Pierre, on a renforcé les arbres sur le port de la Dorade, et on en a mis, parce qu'il n'y en avait aucun, sur l'autre port, le port Viguerie, qui est de l'autre côté, côté rue Viguerie, donc côté Saint-Cyprien, qui est un port dont le charme et la particularité est d'être en arc de cercle. C'est un endroit qui avait beaucoup souffert. La digue avait été très considérablement endommagée. Donc nous avons tout restauré, mais on a voulu également planter. Et puis j'ai demandé à l'hôpital, ça fait plusieurs années que j'ai demandé, et enfin j'ai été entendu, de restaurer lui aussi sa partie, puisqu'il y a une partie de cette digue, côté Hôtel Dieu, côté La Grave, qui n'appartient pas à la mairie, qui appartient aux hôpitaux de Toulouse, donc au CHU. Et les Toulousains ont pu voir, il y a quelques mois, s'achever la restauration de la seule arche du pont qui autrefois reliait le monastère des Bénédictins de la Dorade à l'hôpital. Donc cette arche qui était vraiment dans un état extrêmement dégradé, une arche en brique qui est la dernière qui subsiste, elle est restaurée. Et puis depuis plusieurs semaines, les Toulousains voient des échafaudages sur la façade de ce côté-là aussi, du côté de l'Hôtel Dieu donc. Et là aussi, c'est l'hôpital qui poursuit et qui entame ce processus que j'ai souhaité avec beaucoup d'insistance et qui va, là aussi pour des raisons financières, parce que tout ça a un coût qui n'est pas négligeable, qui va s'étaler sur plusieurs années et qui va permettre d'achever d'ici quelques années la restauration de l'ensemble de la digue historique du cœur de Toulouse.
Puisque vous en parlez, depuis votre précédent mandat, commencé en 2014, je rappelle, quels ont été les principaux lieux et édifices ayant fait l'objet d'une restauration ou d'une mise en valeur particulière ?
J'étais sur la Garonne, je vais y rester un peu parce qu'il n'y a pas que le bâti de la digue, hein, y a aussi le patrimoine naturel. Donc on a renforcé ce patrimoine naturel et en particulier du côté de l'île du Ramier. L'île du Ramier, au fil du temps, elle s'est construite, elle s'est bâtie avec un petit peu de tout, de manière assez hétéroclite. Et la démarche que nous avons entamée consiste à lui redonner son identité et à redonner beaucoup plus de place à la nature en ville. Mon dessein, c'est de faire de l'île du Ramier le jardin de tous les Toulousains, donc à partir de là, de reconstituer un poumon vert puissant. Alors on a commencé au bout de l'île, côté pont Saint-Michel. Sur ce pont-là, nous avions autrefois une discothèque que les Toulousains connaissaient bien, mais qui malheureusement avait brûlé. Donc la question s'est posée de savoir si l'exploitant devait reconstituer l'ensemble, la discothèque, pour continuer à l'exploiter ou pas. Et donc on a réussi à se mettre d'accord avec lui. Ça n'a pas été reconstruit. Et au contraire, on a fait un théâtre de verdure qui est, je crois, très très apprécié. On a, de l'autre côté également, aménagé autour de la maison éclusière une accessibilité paysagère qui n'existait pas. Auparavant, on pouvait regarder cet endroit, mais c'était extrêmement difficile. Il y avait un petit escalier de service, en fait, pour les techniciens qui devaient entretenir l'écluse pour leur permettre d'accéder, mais il n'y avait pas d'accès grand public. Donc on a organisé un accès grand public, il y a une guinguette l'été qui est très appréciée. Donc cet endroit qui ne vivait pas vraiment vit maintenant. Et puis alors, on s'est attaqué à toute l'île du Ramier. Alors un petit peu plus loin, il y a ce qu'on appelle l'île aux Banlèves, où là, on a détruit des tennis couverts, qui étaient couverts avec une sorte de toile plastique, enfin quelque chose qui était assez agressif quand même.
Et peu esthétique.
Pour le paysage naturel. Et on a restauré cette partie de la berge, là aussi, en plantant des arbres, en faisant en sorte que la végétation revienne, en créant une petite passerelle qui permet là aussi de faciliter l'accès. Et puis, on a entamé, au début du mandat municipal actuel, un grand projet que j'avais eu dès 2007, que j'avais fait voter au conseil municipal en 2007, c'est-à-dire le déplacement du parc des expositions du côté de Blagnac, pas loin de l'aéroport, et donc la déconstruction de l'ancien parc des expos. qui avait vu le jour à partir des années 50, qui lui aussi avait plutôt mal vieilli, qui était devenu trop petit en termes de capacité d'accueil, ce qui fait qu'il ne remplissait plus son rôle d'accueil de congrès, parce que plein de congrès ne pouvaient plus venir à Toulouse. Et puis c'était devenu quand même un objet architectural assez informe, avec des styles extrêmement différents. C'était pas très beau à la fin. Et donc on a déconstruit, c'est-à-dire qu'on a récupéré 95% des matériaux. On a gardé un hall remarquable, qui est un hall en béton, style des années 50, parce que le patrimoine, c'est pas que le patrimoine très très ancien, c'est aussi le patrimoine remarquable du XXe siècle, et Toulouse là-dessus est également bien pourvue. Et nous avons entamé un long processus de renaturation des sols. Il faut imaginer que pendant 70 ans, le sol de l'île du Ramier a été totalement imperméabilisé, avec donc une couche de je ne sais combien de centimètres de béton, de bitume. Donc on a enlevé tout ça, puis il a fallu faire redémarrer la nature avec un processus très respectueux, justement, des phénomènes naturels. Ce processus a duré pratiquement 3 ans, avec des palissades interdisant l'accès. Donc peu à peu, la nature a fait son œuvre, elle est revenue, elle a repris ses droits. Et donc là, nous sommes en train de passer à la deuxième phase, en quelque sorte, puisque nous allons là planter activement, on va planter jusqu'à 10 000 arbres dans les 2 ans qui viennent. Et nous avons également un chantier qui avance bien, qui est la création de passerelles de part et d'autre de la Garonne. Donc côté rue Rapace pour accéder depuis la rive gauche, et côté Empalo pour accéder depuis la rive droite. La passerelle côté Empalo sera terminée dans quelques semaines, et je pense que je l'inaugurerai au mois de janvier. Celle de Rapace attendra un petit peu, quelques mois de plus, mais enfin, elle sera inaugurée au printemps, ce qui fait qu'à partir de 2024, les Toulousains vont pouvoir revenir sur l'île du Ramier, mais pas comme avant, c'est-à-dire pas en privilégiant la voiture. On ne peut pas à la fois vouloir développer la nature et puis y mettre de la voiture, hein, ça serait contradictoire. Nous avons pris le parti de passerelles réservées aux piétons et aux vélos, en flux séparés, je le précise, hein, pour des raisons de sécurité. Et puis, au fur et à mesure des années qui viennent, on étendra la superficie qui sera ouverte au public au fur et à mesure du processus de plantation des arbres et des arbustes.
Et si on reste dans le domaine de l'eau, on peut parler aussi du Grand Parc Canal, puisque je rappelle qu'à Toulouse, nous avons la chance d'avoir un monument, un édifice classé à l'UNESCO. C'est toute la partie du canal du Midi qui traverse la métropole. Et vous avez développé donc ce projet du Grand Parc Canal, où il y a le canal du Midi, mais aussi le canal de Brielle et le canal latéral de la Garonne qui sont concernés.
Oui, le canal, ça fait longtemps qu'on n'en parlait plus trop à Toulouse. Et c'est vrai que nous nous sommes, je dirais ces 10 dernières années, concentrés sur la Garonne qu'on a voulu magnifier. Et donc là, nous voyons l'achèvement du projet de mise en valeur et de renaturation à la fois patrimoniale et de végétalisation de la Garonne et des bords de la Garonne. Donc l'idée, c'est de s'intéresser au canal. Le canal, ça concerne 4 communes. Ça concerne 4 communes de la métropole, Toulouse bien évidemment, mais également Fenouillet, Saint-Jory, l'Espinasse. Et il y a 3 canaux, vous l'avez parfaitement dit. Alors on va démarrer quelques opérations ponctuelles. Par exemple, en 2024, nous démarrons l'aménagement du parvis du côté du canal du Brienne. Le canal du Brienne, c'est ce petit canal qui a été voulu par le cardinal Laubigny de Brienne, à l'époque où les évêques de Toulouse avaient un rôle temporel, puisque c'est lui qui présidait les états du Languedoc. Et donc ce canal qui fait la jonction donc entre le canal du Midi et la Garonne. Et donc côté Brienne, là où il y a l'école d'économie, la TSE, pas loin de la manufacture des tabacs, qui est devenue établissement universitaire de Toulouse Capitole, il y a un endroit qui est aujourd'hui pas très beau, il faut bien le dire, hein, où il y a un petit parking avec des voitures, un mur un peu démoli, tout ça pas loin de l'église Saint-Pierre des Cuisines. Donc cet endroit-là, nous allons l'aménager en parvis végétal. Donc c'est quelque chose qui va démarrer toutes les opérations que nous allons, au fur et à mesure des années à venir, que nous allons conduire pour remettre en valeur le canal dans Toulouse, desserrer l'emprise de l'automobile autour de lui, et au contraire, renforcer le tissu végétal avec des rideaux d'arbres supplémentaires et avec pour les piétons et pour les vélos, des espaces de promenade ou de circulation qui seront élargis, confortables, sécurisés et séparés, puisque je suis toujours très très attentif au fait que je ne souhaite pas, pour des raisons de sécurité, mélanger les flux piétons et les flux cyclistes.
Alors si on parle du patrimoine religieux, je pense qu'il y a un chantier qui a été emblématique et qui est terminé aujourd'hui, mais qui a donné un résultat remarquable, c'est la rénovation, la restauration de l'église Notre-Dame de la Dorade.
Oui, la basilique Notre-Dame de la Dorade. Puisque,
oui, c'est la basilique, vous avez raison.
C'est une église aussi, hein, donc l'église de la Dorade.
Mais qui est consacrée
donc
basilique.
Et basilique, elle a même été érigée par le Saint-Siège au rang de basilique avant Saint-Sernin, donc... Que dire ? Et il se trouve que les basiliques, que ce soit la Dorade ou Saint-Sernin, sont propriétés municipales. Au contraire de la cathédrale qui, elle, est propriété de l'État. D'ailleurs, il y a des travaux régulièrement à la cathédrale, c'est l'État qui les accomplit. Donc effectivement, j'ai souhaité la rénovation totale de la basilique Notre-Dame de la Dorade, qui avait beaucoup souffert. Et qui, elle aussi, n'avait pas fait l'objet de restauration depuis sa création. Elle a été créée... au milieu du XVIIIe siècle, donc là aussi il y avait grosso modo 250 ans qui s'étaient écoulés et l'édifice avait beaucoup vieilli, alors que c'est un des plus anciens sanctuaires mariaux de notre pays. Donc restauration totale, et c'est dans le même esprit en ce moment qu'on vient d'entamer un autre chantier de restauration totale, qui est Notre-Dame du Thor, qui est également un édifice religieux important dans la géographie spirituelle des catholiques toulousains, rattaché à Saint-Sernin. Et Saint-Sernin, on s'en est occupé aussi, puisque sur Saint-Sernin, en 2019, nous avons chassé les voitures, hein, qui, là aussi, dévalorisaient l'édifice. On a donc aménagé l'espace de manière à valoriser la basilique. On a beaucoup planté. On a planté plusieurs centaines d'arbres à cet endroit-là. Et puis, j'ai fait faire un travail de restauration d'un pan de mur à l'intérieur de la basilique qui a permis de révéler une peinture sur le mur médiévale assez remarquable. Là, nous terminons les travaux d'un endroit qui, à Saint-Sernin, à la vérité, en avait besoin depuis longtemps, c'est-à-dire l'entrée monumentale qui, dans le jargon des spécialistes du patrimoine, porte un nom très très spécial. Ça m'échappe, mais ça me reviendra. Mais l'entrée monumentale, on est en train de finir de la restaurer. Elle avait souffert depuis longtemps, il y avait un filet vert qui retenait un certain nombre de débris, enfin c'était pas joli du tout. Et il y a un chantier plus original que nous allons commencer là, en 2024, et mener à bonne fin d'ici la Saint-Saturnin 2024, donc d'ici le 29 novembre de l'année prochaine, c'est la création d'une rosace, parce que aussi surprenant que ça puisse paraître, ce qu'on appelle le massif occidental, voilà, le massif occidental qui est le nom de l'entrée monumentale de Saint-Sernin, est pourvu d'une grande rosace, mais cette rosace, il y a une simple vitre. Il n'y a pas de vitraux.
Oui, c'est vrai, c'est étonnant, il n'y a pas de vitraux.
C'est très, très, très...
Il n'est pas coloré.
C'est très curieux. Et donc, du coup, j'ai souhaité faire un concours. Donc, on a lancé un concours, on a associé tout le monde, les autorités du patrimoine de l'État, l'archiprêtre de la basilique, et on est tombé d'accord il y a quelques semaines sur un projet. Nous le voterons en conseil municipal demain. Donc, l'attribution à Jean-Michel Autoniel, qu'on connaît bien, de ce projet qui est original, puisqu'il s'agira de fabriquer au XXIe siècle une rosace en accord avec l'époque médiévale. Je crois qu'on a trouvé quelque chose qui va bien. Et tout cela, ça contribue aussi à magnifier. Voilà. Alors après, on a fait des restaurations à Saint-Nicolas, on a fait des restaurations à Saint-Exupère qu'il faut terminer, à Saint-Jérôme également, on est intervenu. On a un gros chantier devant nous que l'on va entamer également bientôt, c'est Saint-Pierre-des-Cuisines, où là il s'agit de restaurer l'église qui, elle aussi, a son caractère architectural propre par rapport aux autres églises toulousaines. Et puis, un endroit qui est peut-être pas très connu, qui est le Petit Cloître, qui s'y trouve et qui est un cloître assez charmant puisque ces colonnes sont des colonnes de briques avec un jardin de curé à l'ancienne.
Alors il y a une chose sur laquelle il faut qu'on revienne aussi, c'est que cet engagement, ces projets de restauration et de mise en valeur du patrimoine toulousain, eh bien, ont donné lieu à l'obtention de labels. Il y en a plusieurs et notamment un label très important, c'est que Toulouse est depuis quelques années ville d'art et d'histoire.
Oui, c'est un label national que nous avons obtenu après plusieurs années de construction d'un dossier de candidature pour un examen au niveau national et qui reconnaît les efforts de la collectivité pour mettre en valeur le patrimoine dans le souci de le partager. Il ne s'agit pas de mettre en valeur un patrimoine pour les spécialistes, uniquement pour les sachants, même si c'est important dans une ville qui est une ville de la connaissance comme Toulouse, mais de faire en sorte que ça soit véritablement ouvert à tous. Et puis également ce qui a joué dans le label qu'on a obtenu de ville d'art et d'histoire, c'est que nous n'avons pas méprisé l'architecture du XXe siècle, qui parfois est un peu oubliée. Et on n'a pas moins de 21 monuments, 21 créations architecturales. On appelle ça le patrimoine remarquable. Le patrimoine remarquable du XXe siècle, l'architecture contemporaine remarquable.
En parlant de remarquable, il y a aussi trois jardins remarquables, hein, labellisés à Toulouse. Vous pouvez peut-être rappeler lesquels d'ailleurs.
Oui, c'est les jardins du centre-ville, sans trop de surprise. Hein, c'est le Boulingrin, le jardin des plantes et le jardin royal qui sont labellisés, ce qui veut dire que on a un label, mais on a surtout des devoirs.
Il faut l'entretenir.
Qui dit label dit obligation d'entretien, parce qu'il y a, je dirais, à intervalles réguliers, des vérifications qui sont faites pour que le label
soit maintenu.
Et donc, on a, et oui, c'est ces dernières années, on a investi plus d'un million d'euros pour refaire les allées, faire en sorte que tout soit propre et en état.
Alors, j'ai parlé du canal du Midi, donc, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a deux autres édifices qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. C'est l'Hôtel Dieu, vous en avez déjà parlé. Et puis Saint-Cernin, vous en avez parlé également. Soit ce sont des inscriptions qui datent il y a près de 25 ans, même un peu plus. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui sont en cours actuellement pour obtenir d'autres labels à l'UNESCO ou à d'autres organismes mondiaux qui donnent des labels comme ceux-ci?
Alors effectivement, moi j'ai souhaité qu'on aille chercher les labels UNESCO pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous oblige à la qualité, à l'excellence, à avoir des projets qui doivent nous porter vers l'ambition et non pas une sorte d'objectif moyen ou médiocre. Et l'UNESCO a créé de nouveaux labels, label Ville des Musiques. Hein, donc ça, c'est un patrimoine immatériel.
Matériel, mais qui existe.
C'est le patrimoine immatériel aussi, qui existe et qui fait que Toulouse, depuis longtemps, mais aujourd'hui de manière très vivante également, a toujours été une place forte de la musique et des musiques. On dit des musiques au pluriel pour signifier le fait qu'il y a tous les styles, tous les genres, à la fois très, très classiques, jusqu'au rap, voilà, ça va de Piano Jacobin à Big Flo et Oli.
À ce qu'on appelle les musiques actuelles.
Bon, voilà. Et alors, il y a un autre label dans lequel nous sommes engagés. Il s'agit de mettre en valeur un document qui, je pense, n'est pas très connu des Toulousains. Ce sont les annales des capitouls qui sont une chronique de la vie municipale toulousaine sous l'Ancien Régime. Ça commence en 1295, ça dure jusque à la veille de la Révolution, 1787, et ce sont des annales avec des enluminures remarquables, dans un état de conservation superbe. C'est les archives municipales, bien évidemment, qui sont dépositaires de ces annales. Et j'ai signé, pas plus tard que ce matin, c'est vraiment le hasard, le dossier de candidature à l'UNESCO pour le label « Mémoire du monde ». Que ces annales soient érigées à ce point-là de reconnaissance. Et c'est toujours, là aussi, un moyen d'attirer l'attention sur Toulouse, d'avoir un coup de projecteur sur notre ville et d'attirer des curieux, des personnes qui s'intéressent à l'histoire et aux objets les plus précieux qui soient.
Pour terminer rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, là, Toulouse travaille aussi depuis plusieurs années à la mise en place de ce qui s'appelle le plan de sauvegarde, de mise en valeur du site patrimonial remarquable. On retrouve cet adjectif remarquable. Ça, c'est un dispositif spécial qui est destiné à protéger le patrimoine dans sa grande diversité et qui concerne les 256 hectares du cœur historique de la ville, vraiment. Hein.
Voilà, c'est le cœur historique de la ville. Toutes les villes, pratiquement, ont protégé leur cœur historique par un règlement d'urbanisme spécifique. Parce que comme le patrimoine occupe dans ce morceau-là de la ville, le cœur de la ville, une place qui est beaucoup plus forte que dans tout le reste de la ville, on estime qu'il faut, en matière d'urbanisme, des règles spécifiques, non pas des règles qui empêchent l'évolution, au contraire, le patrimoine n'est pas fait pour être figé, muséifié, il doit être vivant, on est pour la ville habitée. Simplement, il faut des précautions supplémentaires. Et ces précautions supplémentaires, ce n'est pas simplement l'architecte des bâtiments de France qui, à un moment ou à un autre, donne son avis, ça doit être une règle connue à l'avance de tout le monde pour que tout le monde, que ce soit les propriétaires, les porteurs de projets, les architectes, les promoteurs, que sais-je encore, sache à l'avance que à cet endroit-là, il y a des particularités à prendre en compte du fait de l'histoire. Donc ça a été un très très long processus. On l'a commencé en 2015. En 2024, on va être dans ce qu'on appelle la phase d'approbation du projet. Et donc en 2025, ces règles-là vont entrer en vigueur, qui seront donc, ça va être comme une enclave au milieu du plan local d'urbanisme, le futur plan local d'urbanisme intercommunal et d'habitat, PLUH, puisqu'il y aura ces règles spécifiques qui s'appliqueront pas simplement au patrimoine bâti, mais également à l'intérieur.
À l'intérieur.
Il y a eu tout un travail de recensement qui a été fait pendant plusieurs années. Et donc, voilà, donc ça va être une très grande nouveauté. Toulouse est pratiquement la dernière grande ville de France qui n'avait pas un tel plan. Les limites ont été définies il y a plus de 40 ans, mais le processus n'a jamais été actionné. Donc, on connaissait le périmètre, mais il n'y avait pas de règles. Donc, c'était quelque chose qui n'existait pas en réalité. Et donc, j'ai souhaité qu'il y ait tout ce travail pour que nous ayons cette protection spécifique.
Entrée en vigueur donc prévue en 2025 pour ce plan de sauvegarde, de mise en valeur du site patrimonial remarquable. Eh bien, merci beaucoup Jean-Luc Moudinc d'être venu nous parler de votre passion, parce qu'on sent que vous êtes passionné pour le patrimoine et de l'action que vous menez à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole pour le préserver, le mettre en valeur, parce qu'il est la propriété de tous les citoyens, vous l'avez rappelé également. Merci aussi pour votre soutien à Radio Présence. Je rappelle à nos auditeurs que pour faire une promesse de don, ils peuvent nous appeler au 05 62 48 63 00. Possibilité également de faire un don en ligne sur notre site web www.radioprésence.com. Ce numéro de Métropolez-vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine à l'écoute de Radio Présence.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous. Une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.